C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Bah, j'espère que vous avez la matinée hein, parce que Thibaut a de l'info à gogo. Hein. On va faire le plus vite possible pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions.
Oui, vous savez,
ce matin.
Vous savez, ces épisodes du lundi, en général, on essaye de rester sur un nombre de news limité pour pas que ça dure trop longtemps, qu'on soit efficace. Et puis bon, bah, l'actualité oblige, il y a pas mal de choses. Je vais commencer tout de suite avec une news concernant les élections américaines. On le sait tous, Donald Trump a chopé la ou le Covid au choix. Alors qu'Obama et Biden, du coup, la jouent fair play, hein, en lui souhaitant un prompt rétablissement, eh bien, une bonne partie du web social s'est lancée dans une espèce de fiesta virtuelle à base de « yes, bien fait » ou « ça, c'est ce qu'on appelle le karma » ou même carrément « j'espère que tu vas mourir, Donald ». Sauf que c'est interdit de souhaiter la mort de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Si vous vous posiez la question et que vous aviez des grosses envies ce matin, abstenez-vous, hein, puisque Twitter a dû préciser récemment dans un tweet que son règlement interdit de souhaiter la mort de quelqu'un dans une publication. Et cette règle, elle est déjà en vigueur depuis avril 2019. Donc pour les tweets qui souhaiteraient la mort de Trump, eh bien Twitter peut demander à l'auteur de retirer ses posts et bloquer le compte jusqu'à ce que ce retrait soit fait. Ça, c'est sur Twitter, mais c'est pareil ailleurs. Sur Facebook, c'est la même chose. Des sanctions peuvent aussi s'appliquer. Hein. Un responsable du réseau social a expliqué, c'était ce week-end, hein, que sont systématiquement supprimées les publications qui souhaitent la mort de Donald Trump. Voilà, c'est clair. Ça vaut aussi pour les commentaires, hein, donc ne vous y risquez pas. Et puis sur TikTok, idem, les publications détectées par la plateforme seront supprimées. Bon, alors forcément, ça pose des questions, notamment à de nombreux tweetos, hein, et des personnalités qui s'étonnent de cet excès de zèle des plateformes, hein, notamment sur Twitter, où on a parfois un peu l'impression que souhaiter la mort de quelqu'un publiquement, c'est quasiment une formule de politesse, hein, certains jours. À ce titre, t'as la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, hein, qui est une démocrate notable aux États-Unis, hein, qui a expliqué sur Twitter, qui a fait un tweet sur Twitter en disant « Ah bon ? Ah ouais, du coup, ça veut dire que vous auriez pu interdire ça depuis longtemps, Twitter. » Et c'est vrai que, voilà, question est posée. Est-ce que Donald Trump a le droit à un service de protection en ligne assuré par les plateformes sociales ?
Ouais, il doit avoir des avocats qui courent après lui et son passif Twitter. Il doit avoir des petits avocats qui courent après Twitter, je pense.
Après, on sait aussi que la personnalité du président américain est quasi normalement en temps voulu est intouchable. Alors ouais. Avec Trump, c'est un peu différent.
Est-ce qu'on a le droit de lui souhaiter une bonne et très longue maladie, par exemple?
Allez, nous, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas.
Moi, je vais parler d'un truc un peu plus intégré dans le social media et un peu plus cool. Un peu plus cool, je sais pas. Non, c'est bien ce qui arrive à Donald Trump. Finalement, j'ai le droit de le dire au micro du Super Daily. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de mèmes, hein, sur le sujet. Ça m'a fait beaucoup rigoler ces derniers jours. Non, moi, je vais te parler d'une famille. Une famille qui a très bientôt 10 ans et qui cesse de nous impressionner. C'est la famille des groupes Facebook.
Oui,
10 ans, voilà. Moi, j'avais des cheveux à l'époque, hein, mais il y a même 4 ans encore. Au passage, il serait utilisé chaque mois par plus de 1,8 milliard de personnes. Et en septembre, cette année, plus de 70 millions d'utilisateurs ont créé et géré des groupes actifs sur Facebook. Voilà, ça c'était pour poser une petite base. Rappelle-toi, on parlait des groupes Facebook dans un épisode il y a pas si longtemps comme le dernier paradis du reach organique en tout cas. Et plus que jamais, ils séduisent. Et Facebook a annoncé il y a 3 jours le lancement de nouveaux outils de gestion pour les groupes Facebook. Vous qui nous écoutez, je ne vais pas tout vous raconter. Nous ferons un épisode spécial le jour où près des vrais 10 ans des groupes. Je peux juste vous dire que des nouveautés donc sont créées autour des groupes. L'objectif de ces nouveautés est de simplifier la découverte de nouveaux groupes publics ou privés, de simplifier la participation des membres à de nouvelles conversations, tout en permettant aux administrateurs de garder le contrôle sur le partage des posts et l'ajout de nouveaux membres. Encore plus de fonctionnalités qui vont en faire un espèce de mini CRM pour faciliter la gestion des commentaires, la gestion des nouvelles personnes, la gestion des rôles, etc. Je peux vous parler de deux fonctionnalités. Un nouveau tri des sujets au milieu des groupes pour organiser les publications en fonction des sujets avec des hashtags.
Ça, c'est vachement intéressant. Donc,
on revient
groupes.
Sur les hashtags ouais. hein, dont on avait parlé.
Tout à fait.
Des posts épinglés en haut de la page pour les mettre en évidence. Ça, bizarrement, j'avais l'impression que ça existait déjà, mais peut-être pas dans les groupes.
Vraisemblablement non. Oui.
Voilà, vraisemblablement non. Et ensuite, alors ça, c'est un truc super cool, je trouve. Peut-être que ça va se généraliser sur Facebook. Une certification en community management pour pouvoir savoir comment créer, développer, encourager ces communautés. Donc, ils ont mis en place un programme de cours en ligne et un examen.
Ouais, sur Blueprint, Facebook Blueprint, oui, oui. Beaucoup d'annonces, hein. On sent que Facebook souhaite continuer à développer les groupes. T'as raison, ça vaut le coup qu'on fasse un épisode prochainement sur les groupes Facebook. On en parle finalement assez peu. Et là, il y a eu des grosses annonces. Donc, allez, on va regarder ça. On va mettre ça dans notre Trello.
Soyez pas trop curieux. N'allez pas regarder ce qui est annoncé. Attendez l'épisode où on parlera des 10 ans
peut-être,
des groupes Facebook.
Je sais pas. Peut-être dans la semaine. Tiens, pourquoi pas.
Eh ben, je sais pas. Faudra qu'on regarde notre calendrier. Quand est-ce que ça tombe, les 10 ans des groupes Facebook? Mais on en parlera très bientôt. Voilà.
Puisque tu parlais des groupes Facebook et de Facebook, eh ben je vais parler de Pornhub. Rien à voir.
Ah bah nickel.
Rien à voir.
Puisqu'on parlait de Donald Trump et des groupes Facebook, je vais parler de cul.
Voilà, Pornhub qui sort une campagne qui s'appelle Not My Job, une campagne brillante réalisée par BETC Paris hein, pour le compte du site Pornhub. Not My Job donc. Ça m'a fait beaucoup rire et je voulais en parler avec vous ce matin. La campagne en fait annonce le lancement d'une gamme de sex toys brandée du célèbre site porno hein. Pornhub, faites pas semblant, vous saviez que vous connaissez un clip vidéo donc qui met en scène des objets du quotidien et puis aussi des légumes du potager hein, parfois détournés de leur fonction première pour être utilisés à des fins évidemment sexuelles. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Je vous mets le lien vers cette vidéo YouTube qui est très drôle. On y voit des carottes, des chaussettes, des concombres chanter It's not our job baby, ce n'est pas notre boulot. Voilà, donc vous aurez compris. À la fin de la vidéo, au moment où le carton Pornhub avec contenant eh bien, les sextoys est déposé, la carotte s'exclame, la voix remplie, tremble, tu vois un petit peu fébrile. Nous sommes sauvés. Voilà, c'est très rigolo. Allez voir ça. À noter, et c'est ce que je trouve intéressant dans cette campagne, c'est que tous les objets qui sont présents dans le film font partie d'histoires vraies qui ont été trouvées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à ce titre, il y a David Martin Angelu de BETC Paris hein, qui explique qu'ils ont fait une quantité incroyable de recherches pour ce projet hein. Donc on imagine les recherches de David et sa bande, ça devait être assez cocasse.
Boulot hein.
Ça va chérie, ta journée de boulot? Ouais, terrible, je suis sur une campagne là, c'est épuisant. Et alors c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est très rattaché à ce qui se dit réellement en ligne, donc c'est marrant. Et Pornhub d'ailleurs propose un site internet hein, qui met au défi les visiteurs de trouver d'autres objets ayant été utilisés à des fins sexuelles, hein, d'objets du quotidien. Donc ça, je vous mets le lien directement vers ce site Not My Job. Sont répertoriés 250 objets insolites et chaque bonne réponse elle permet d'avoir un bon de réduction pour la boutique en ligne. Je trouve la mécanique assez marrante, 250 objets comme même. Donc là, il va falloir laisser parler son imagination, je pense.
David, si tu es à court d'idées, d'objets hein, dans tes recherches, je t'invite à aller voir aux urgences. Souvent, ils ont une belle liste de ces choses-là. J'ai retenu dans ce que tu m'as dit, Thibaut, quand même, il y avait les chaussettes dans la liste au milieu des légumes. Voilà. Donc voilà.
Dans la vidéo, on voit
j'irai voir du moins la vidéo, ça me semble très marrant. Bah, moi, je vais te parler d'un truc quand même beaucoup moins cocasse. Hein. Je veux dire que là, tu as quand même relevé le niveau d'un certain degré. Moi, je voulais te présenter, non pas vraiment une actualité, mais un podcast ou alors une actualité sous forme d'un podcast, on peut dire ça comme ça. Il s'agit de Code RH. Le point de départ de ce podcast qui a été créé, j'en sais rien, par contre c'est sorti début septembre, le 9 septembre exactement, ils ont balancé leur première saison, première série de 5 épisodes. Le point de départ de ce podcast, sa raison d'être, c'est que l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle est aujourd'hui au cœur des préoccupations des salariés, mais également des entreprises qui œuvrent pour une meilleure qualité de vie au travail. Et bien sûr, tu t'en doutes, aujourd'hui, ça passe pas mal par les réseaux sociaux et le digital. C'est ce qui a attiré mon attention. Le podcast Code RH est proposé par le cabinet d'avocats Fromont Briance, qui est une référence juridique en matière de droit social et créé en partenariat avec Capital. Donc, on est sur un truc bien costaud, bien sérieux. Cette première saison est sortie donc début septembre en 5 épisodes qui abordent 5 thèmes d'initiation. Donc j'imagine que ça ira plus loin parce que mine de rien, bah tu te laisses assez prendre. Hein. Et il y a notamment un épisode qui est très bien fait, qui s'appelle Les ressources humaines à l'heure des réseaux sociaux. Rien que le nom m'a laissé penser qu'il y avait quelque chose de très intéressant derrière. En effet, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On ne sait pas vraiment le cadrage RH, le cadrage légal de tout ça. Il nous parle entre autres des droits et devoirs du recruteur en matière de réseaux sociaux. Puis-je recaler un candidat si sa prise de parole sur Facebook n'est pas en adéquation avec mon entreprise? 80% des recruteurs le font, mais il faut savoir qu'ils doivent en informer le candidat d'une manière ou d'une autre, normalement. Et tout cet épisode est étayé de chiffres, une grosse étude qui a été faite en 2018 sur le recrutement et les réseaux sociaux. Il y a aussi des cas concrets, notamment sur l'utilisation de la messagerie privée dans le cadre du travail. Donc il y a vraiment pas mal de trucs, rien que sur cet épisode de 25 minutes. Je vous mets le lien en copie. J'ai trouvé ça très intéressant et ça méritera aussi un sujet global sur les RH et les réseaux sociaux.
Ouais, bah ça c'est passionnant. C'est un sujet, la confusion de plus en plus importante entre vie perso et vie privée, dont on a déjà nettement parlé ici dans le Super Daily, mais super bienvenue ce podcast. Je connaissais pas, j'irai écouter
voilà,
ça avec beaucoup d'attention.
Code RH.
Et bien, puisque tu parles, puisque tu es.
Je suis sûr, ça n'a rien à voir.
Si, ça a à voir. Parce que dans. Je vais parler outils de télétravail. Je vais parler notamment de tu sais, ces outils de visio, hein, Zoom, Teams, Hangout, hein, chez Google, qui font aujourd'hui partie de notre quotidien et sont petit à petit devenus des outils aussi qui jouent un rôle de socialisation, un espace de socialisation. Hein, on l'a bien vu pendant le confinement. En gros, c'est du dark social, tous ces outils. Mmh. Et il me semblait intéressant, du coup, de parler des nouveautés chez Google Meet. Google Meet, donc c'est le pendant visio. Hein, nous, c'est ce qu'on utilise à l'agence, hein, quotidiennement. Eh bien, il y a deux nouvelles fonctionnalités très, très cool qui ont été lancées par Google. Google Meet qui lance donc des sondages et des questions-réponses. C'est assez cool. Dès le 8 octobre, Google Meet va donc intégrer un outil de sondage à ses fonctionnalités. Hein, l'objectif de ces sondages en temps réel, hein, pendant ton direct en visio, c'est de faciliter la prise de décision. Donc, celui qui organise la réunion va pouvoir paramétrer des questions à l'avance et lancer les sondages quand il le souhaite pendant l'appel.
Bien.
Je trouve ça très très cool. C'est franchement une fonctionnalité qui permet quasiment de faire des lives, en tout cas en équipe, peut-être même en équipe de travail, mais peut-être même autre chose, hein, peut-être même en communautaire. L'organisateur de la réunion a accès aux résultats en direct, hein, pendant la visio, donc ça c'est intéressant. Et puis il va voir aussi les réponses qui lui seront envoyées par email, les résultats, tu sais, via un Google Sheet.
Ouais.
Donc ça crée un Google Sheet automatiquement. Ça c'est plutôt cool. Et puis il y a la même chose en questions-réponses qui permet de poser ces questions en direct dans Google Meet, comme tu vas avoir sur Instagram Direct Message, où les gens peuvent poser une question et tu peux l'afficher à l'écran. Eh bien tu as exactement la même chose dans Google Meet. Voilà, je trouvais ça super intéressant.
Ce que personne n'arrive à faire en réunion, à rendre une réunion physique dynamique, peut-être qu'on va réussir à le faire en digital.
Peut-être.
Ce qui était l'un des lieux de roupillon de certaines personnes. Hein, ma caméra est pétée. Je suis tombé récemment avec un client.
Le fameux « ma caméra marche pas,
ouais,
je suis désolé ».
J'ai un bug. Je suis tombé avec un client cette semaine. On devait s'appeler et donc la personne avait un nouvel ordinateur. Ah mais en fait, on n'a pas de caméra dessus. Donc on va pas pouvoir...
Tu y as cru ou pas?
Et c'était vrai.
Ah, c'était
une histoire.
Vrai.
Ouais, voilà, d'accord. Je tenais à le dire à Ludovic qui nous écoute peut-être.
Bis Ludovic.
Je vais te parler d'un algorithme. Alors, c'est jamais très marrant les algorithmes, sauf que là, celui-ci est voué à disparaître. L'algorithme d'aperçu de photos de Twitter. J'avais jamais vraiment entendu parler de ça. En fait, tellement c'est dans notre quotidien que je m'étais pas posé la question. Je sais pas si ça te parle, cet algorithme d'aperçu de photos. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Je vois la partie média, hein, dans Twitter, mais de là. Le fonctionnement algorithmique, je le vois pas trop, non.
Eh bien, depuis 2018, sur Twitter, il existe un petit programme qui automatiquement repositionne les photos issues des posts pour créer l'aperçu qu'on retrouvera dans le feed, tout simplement. Si tu mets une photo de 4 mètres par 3, il va juste prendre un petit cropage automatique. Voilà. Et ça, c'est un algorithme qui gère ça. Et récemment, ce gentil petit algorithme a fait parler de lui puisque des internautes, après avoir passé plus de 24 heures à le tester, se sont rendus compte qu'entre une personne blanche et une personne noire, Twitter mettait plus souvent en avant la personne blanche, donc dans le crop, hein, dans la mise en avant de la photo. Et il y avait en effet un petit biais intrinsèque à l'existence même du module, hein, devoir choisir quel élément est le plus important d'une image. Selon Twitter, le fonctionnement de son algorithme est basé sur une notion de prépondérance, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus important dans une photo.
Et là, voilà.
Et là, quelqu'un, deux ans après, s'est dit, je vais passer 24 heures à le tester.
Tu sais qui c'est? J'en profite, excuse-moi, je te coupe.
C'est un cousin à toi.
Non, c'est Paul de Only Lyon qui m'a remonté cette info, effectivement. Ah. Et j'ai testé par moi-même et c'est assez flippant, effectivement. Si tu envoies une photo avec un homme blanc et un homme noir, Twitter va systématiquement cropper sur l'homme blanc. Donc, je salue Paul pour la perspicacité de sa recherche. Voilà, merci.
Voilà, donc ce qui en découle, hein, Twitter a annoncé que son algorithme allait tout simplement être abandonné petit à petit. Deux options envisagées, vous laissez choisir la miniature. Alors ça n'existe pas vraiment de cette manière-là sur les autres plateformes. Les autres plateformes, ça va être sur une vidéo ou la miniature. Si tu peux télécharger, uploader une miniature. Voilà, donc vous laissez choisir la miniature ou ne pas du tout cropper l'image, avec bien sûr des exceptions pour les très très grands formats ou formats très particuliers. En tout cas, ceci va être abandonné. Voilà, il n'y avait pas pensé.
Ça serait miraculeux. Enfin, enfin. Allez, je vais finir en beauté avec Facebook et du publicitaire. Ah, voilà, les adeptes. Là, je sais que les adeptes de SMA qui nous écoutent.
Là, il y a du geek, là, qui va rester jusqu'à la fin.
Là, tout de suite, restent jusqu'à la fin et réouvrent leur tympan pour m'entendre parler de modèle d'attribution. Voilà, le bonheur absolu. Facebook a décidé de supprimer son modèle d'attribution de 28 jours pour les conversions à partir des publicités. Et je vois dans tes yeux que tu me regardes en disant, non, c'est pas vrai. C'est une grosse annonce que je glisse comme ça. Facebook a annoncé la suppression de son option de 28 jours sur la fenêtre d'attribution. Jusqu'à présent, tu pouvais choisir ton modèle d'attribution publicitaire et notamment élargir la fenêtre jusqu'à 28 jours. Donc, tu peux dire 7 jours, 28 jours, etc. Tout ça, c'est fini. C'était particulièrement utile, cette histoire de 28 jours, dans le cas d'achat nécessitant un long cheminement vers la conversion. Je donne un exemple pour ceux qui connaissent pas trop le sujet. Concrètement, si je veux acheter une paire de skis en ligne, eh bien, ça peut prendre du temps. Hein. Je croise une pub sur Facebook, je me renseigne, je benchmark en ligne et puis après peut-être 3 semaines de recherche et de comparaison, eh bien, je finis par faire un achat en ligne.
Par retourner sur le site de Salomon où j'avais déjà créé un panier.
Ou de Rossignol ou de Dynastar, effectivement. Et dans ce cas, eh bien, le pixel Facebook était en capacité d'attribuer la vente à la campagne Facebook originelle.
Pendant 28 jours.
Voilà. Exactement. En tout cas, c'est ce que le modèle d'attribution permettait. Et ben maintenant, cette capacité, elle sera limitée à 7 jours. On ne pourra pas aller plus loin. La raison, elle tient vraisemblablement au changement de politique de confidentialité imposé par un certain nombre de navigateurs dont on a déjà parlé, Safari, Chrome, etc., qui petit à petit bougent la manière dont sont gérés les cookies, les pixels, etc. Bref, c'est une grosse news. Je pense que ça risque de compliquer la vie à un certain nombre de social media experts, hein, parce que après, comment attribuer la vente? Ça va compliquer un petit peu tout ça.
Ouais, je pense que globalement, t'as 80%, voire 90% des achats qui se font dans cette période de 7 jours. Mais il y a toujours des traînards ou des produits plus chers qui mettent plus de temps à être décidés.
Surtout, ce que ça faisait surtout des coûts de conversion qui étaient plutôt bénéfiques, hein, pour Facebook, puisqu'effectivement, si tu ouvrais ta fenêtre sur 28 jours, ta fenêtre d'attribution, eh ben, il y avait quand même beaucoup plus de probabilité de chance que la vente soit attribuée à Facebook.
Ouais, ouais. Hein, ouais. À une personne qui avait vu la pub dans tous les cas. Mais... Ok, eh ben, écoute, peut-être il y a 10% ou 20% des ventes qui vont baisser. On verra.
Préparez-vous, dites-nous.
Bon,
tiens,
c'était
dites-nous
toutes les news de la rentrée de ce lundi matin. Il y en avait 7. C'est bien costaud. Je me demande si on ne devrait pas annoncer le menu à l'avance, tu sais, prochainement, pour garder les gens jusqu'à la fin et découvrir ces merveilles d'attribution. On vous souhaite à tous une bonne semaine. D'ici là, vous pouvez communiquer avec nous, venir nous poser vos petites questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest. J'ai dit tout le temps dans le même ordre, et TikTok.
Voilà, bah c'est ça, ils y sont.
Oui, on a tout le monde.
Et puis, je vais profiter de cette fin d'épisode pour vous remercier, vous qui êtes si nombreux à nous laisser des messages sur Apple Podcasts. On en a reçu toute une salle. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Non seulement ça nous fait chaud au cœur, mais en plus,
ça
on va pas...
Ça nous fait chaud à l'algorithme.
Aussi. Voilà, ça nous fait chaud à l'algorithme puisque ça nous aide évidemment à rendre ce podcast encore plus visible sur la plateforme Apple Podcasts. Donc, n'hésitez pas à continuer, ça nous fait très plaisir. Et puis, à partager aussi cet épisode pour le faire découvrir. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dès demain.
Très bonne semaine.
Salut à tous. Ciao. Ciao.